Mai 2022, l'éminent intellectuel américain Jeffrey Sachs alerte la communauté internationale. Il est urgent d'ouvrir une enquête indépendante pour enfin trouver l'origine de la Covid-19.
Mystérieuse pneumonie qui inquiète l'Organisation mondiale de la santé, considérant qu'il s'agit d'une menace sanitaire planétaire.
Et probablement une grippe très grave.
Un virus qui, jusqu'à présent, n'était absolument pas connu comme pouvant attaquer l'espèce humaine. Ça s'appelle le coronavirus.
En attendant cette enquête, nous vous proposons d'explorer les zones d'ombre qui persistent. Que sait-on précisément de son contexte d'émergence ? Et surtout, que sait-on avec certitude ne pas savoir ?
Mécanique des épidémies. Quatrième saison. La Covid.
Le médecin Renaud Piarou, chef de service à la Pitié-Salpêtrière, va vous guider dans cette enquête épidémiologique comme il l'a fait pour le choléra, le sida et la grippe. Avec lui, remontez le fil vers l'origine de la Covid-19, loin de toute tentation complotiste ou paranoïaque. Pour comprendre, à partir des faits et preuves dont on dispose aujourd'hui, quels indices, quels suspects, quels conflits d'intérêts, quels abus, quelles erreurs ont pu être commises. Mais pour cela, il est indispensable de remonter à la préhistoire de la Covid-19.
Il faut s'intéresser à l'origine du Covid parce que c'est ce qui nous arrive quand même. D'abord, par simple curiosité, on a vécu une période très compliquée pendant 2 ans. On aimerait bien savoir pourquoi. Et on aimerait bien que ça ne recommence pas. Donc si on ne sait pas ce qui a provoqué la pandémie, on aura du mal à éviter la suivante.
Premier épisode, le coronavirus avant la Covid-19.
Le coronavirus, c'est l'ensemble des virus où on va trouver les SARS-CoV. Les SARS-CoV, c'est les coronavirus, CoV c'est coronavirus, qui donnent le SARS. Le SARS, syndrome aigu respiratoire sévère, donc le premier SARS de 2002-2003, et le SARS-CoV-2 qu'on a actuellement. Et Covid-19 est une maladie donnée par le coronavirus en 2019. Comment le coronavirus a pu presque immédiatement donner une épidémie d'une telle ampleur que la Chine a dû confiner la ville de Wuhan après seulement quelques semaines, après le début apparent de l'épidémie. Il y a aussi, on va le voir, des débats sur est-ce que certaines recherches méritent d'être faites compte tenu du risque d'avoir un virus pandémique qui s'échappe d'un laboratoire. Le coronavirus, c'est un virus, c'est très probablement l'agent d'une pandémie qui a eu lieu à la fin du 19e siècle. Bien sûr, on ne peut pas en apporter la preuve certaine parce que le virus n'a pas été isolé en 1890. On n'avait absolument pas cette capacité. On comprenait à peine que des microbes pouvaient donner des maladies. Et on en était encore à se poser des questions là-dessus. Mais plusieurs choses font penser que cette pandémie est liée à un coronavirus. D'abord, il existe maintenant chez l'homme un coronavirus qui s'appelle OC43. C'est son nom, OC43, qui, quand on essaye de retrouver les virus les plus proches, on va trouver un coronavirus chez les bovidés. Et quand on regarde le taux de mutation, la vitesse des mutations et combien de mutations séparent l'embranchement des rameaux actuels, on tombe à peu près sur 130 ans. 130 ans, c'est en gros 1890. C'est le premier argument. Le deuxième, il repose sur l'étude de cette épidémie. On est en 1890, c'est-à-dire que quand même les malades sont bien décrits. Et là, un certain nombre d'auteurs se disent, est-ce que c'est la grippe, est-ce que c'est pas la grippe? En tout cas, vont décrire des personnes qui ont des maux de tête, ont de la fièvre, des frissons, des signes respiratoires, mais aussi une perte du goût, une perte de l'odorat, et font plus souvent des problèmes cardiaques ou de vaisseaux qui se bouchent. Et puis, il y a des arguments épidémiologiques. Les médecins, à ce moment-là, sont étonnés de ne pas avoir de problème chez les enfants. Grosso modo, il n'y a pas de souci. C'est juste avec l'âge qu'on va avoir des formes graves. Alors que dans la grippe, il y a à la fois les jeunes enfants qui sont souvent malades et puis les personnes âgées. les adultes sont généralement épargnés. Le coronavirus, c'est vraiment pratiquement rien chez l'enfant, pas grand-chose chez les adultes. Et plus on va vers un âge avancé, et plus on a des cas. Et même, ils notent que les risques sont beaucoup plus importants chez les hommes qui ont un certain surpoids que chez une personne trop maigre. Le poids était un argument extrêmement fort. Tout ça fait penser que, à la fois, c'est une date crédible pour le passage du virus du bétail à l'homme. On ajoute en plus que, à ce moment-là, il n'y avait pas de frigo, il n'y avait pas de congélateur. Et donc, le bétail faisait le voyage vers les villes. Donc, ils arrivaient vivants. Donc, les gens étaient plus exposés dans les abattoirs. Et tout ça concorde finalement avec la possibilité d'un, ce que les Anglais appellent un spillover, d'un franchissement de barrières d'espèces depuis le bétail jusqu'à l'homme. Cette pandémie a été appelée grippe russe, parce qu'on ne faisait pas la différence entre grippe et coronavirus. Elle a touché, par définition, puisque c'est une pandémie, l'ensemble de la planète. Commencé tout début 1889, 1890, elle a continué un petit peu pendant 2-3 ans, et puis ensuite, on n'en entend plus parler, si ce n'est que le virus OC43 est toujours présent comme un des virus du rhume banal. Le nombre de morts de cette pandémie, c'est à peu près une personne sur 1000. Donc on considère que ce sont des pandémies modérées comparées à la pandémie de 1918-1919 où les chiffres vont plutôt vers 5% de la population.
Les médecins spécialistes du monde entier sont mobilisés pour tenter de trouver une thérapie efficace face à la pneumonie virulente qui s'est déclarée en Asie. 9 personnes sont mortes ces derniers jours et partout des mesures de protection ont été prises pour éviter la propagation de l'épidémie.
Alors le SARS, syndrome aigu respiratoire sévère, commence en décembre 2002, janvier 2003. 11 cas de pneumonie sévère. Pas tous reliés les uns aux autres, sans qu'on comprenne très très bien. Puis derrière ça, commençait à y avoir quelques petites épidémies, qu'on va dire nosocomiales, parce qu'elles surviennent en milieu hospitalier. Et survient un événement avec quelque chose dont on parle maintenant, c'est les super spreaders, les événements qui vont déclencher une aggravation dans une épidémie. Alors ça survient à Hong Kong, à l'hôtel Métropole. Donc dans un hôtel, il y avait une personne qui était malade, on l'appelait le super spreader. Et les gens qui ont fréquenté le même étage dans l'hôtel, qui ont pris l'ascenseur avec lui, etc., se sont contaminés, sauf que c'est un hôtel très chic, avec des voyageurs qui viennent de partout. Et le coronavirus, le SARS-CoV, on va dire un maintenant, va partir au Vietnam, va partir différents endroits, y compris jusqu'à Toronto au Canada. Et c'est là où on va avoir de nouvelles chaînes de contamination qui se mettent en place. Finalement, comme c'est une maladie qui est très symptomatique, la contagiosité d'ailleurs intervient alors que les gens sont déjà symptomatiques, les équipes de lutte contre les épidémies dans les différents pays finissent par arriver à contrôler la transmission. Et quelques mois après, il n'y a plus de cas de SARS-CoV. On a eu en tout à peu près 8000 cas et à peu près 800 décès. C'est donc une létalité bien plus forte que celle qu'on a eue avec le SARS-CoV-2. Mais par contre, comme il a moins diffusé, il a fait infiniment moins de dégâts. Quand je parle de maladie symptomatique, je veux dire que dans le SARS-CoV-2, à peu près la moitié des personnes n'ont pas de symptômes ou vont déjà être contaminants avant d'avoir les symptômes. Si bien que, en termes de propagation de la maladie, les gens ne se savent pas malades et contaminent leur entourage. Pour le premier SARS-CoV, les symptômes, qui sont les symptômes du SARS, ils sont tout à fait comparables, même s'il y a des nuances, ces symptômes-là interviennent tout de suite. On ne trouve pas d'asymptomatique, en tout cas ça n'a pas été mis en évidence. Il est facile de repérer les personnes malades et donc de les isoler. La différence vraiment est à ce niveau-là. Il y a une troisième maladie liée à des coronavirus, c'est le MERS-CoV, donc un coronavirus qui nous vient du Moyen-Orient et dont on sait maintenant que c'est d'abord une épidémie chez les dromadaires Et à partir de l'ensemble des virus qui circulent chez les dromadaires avec leur variété, sortent de temps en temps des virus qui vont contaminer l'homme. Donc on a des départs de contamination, mais ces virus très proches les uns des autres, cette population de virus, ne sont pas très adaptés à l'homme. Pour l'instant, ça s'arrête. Mais on a toujours la trouille qu'ils finissent par s'adapter et que lancer une vraie chaîne de contamination qui pourrait donner une pandémie. On en a d'autant plus peur que ce virus est encore plus mortel que le premier SARS, et donc beaucoup, beaucoup plus que le SARS-CoV, avec une mortalité de l'ordre de 30%. Jusqu'ici, on a eu à peu près 2500 cas, et là encore 800 décès. Ce qui fait trois modes de sortie différents de ce type d'infection. On a à supposer que ce soit donc l'épidémie de 1889-1890, soit une épidémie de coronavirus. On a un mode de sortie, effectivement, par le fait que le virus s'adapte, reste contagieux, continue à contaminer les gens, mais les personnes acquièrent une immunité. Et finalement, comme les coronavirus ne font pas beaucoup de dégâts chez les jeunes personnes, ils circulent, les personnes âgées sont immunisées, les personnes jeunes ne sont pas encore, mais acquièrent leur immunité, et on a finalement un virus de rhume qui ne nous pose pas de problème majeur. L'autre possibilité, celle du SARS-CoV numéro 1, où le virus est dangereux, mais on ne lui a pas laissé le temps de faire tout ce travail. On commençait déjà à se propager, mais on a arrêté la transmission avant qu'elle ne soit vraiment pandémique. Elle a touché un certain nombre de pays, mais que quelques personnes dans chacun de ces pays. Et l'autre modalité, finalement, c'est un virus qui s'est installé chez un hôte que l'on fréquente dans la péninsule arabique. Oui, on peut avoir des contacts avec les dromadaires. Et c'est là qu'on a des cas sporadiques, mais sans chaîne de transmission importante chez l'homme. Donc on a vraiment les trois possibilités.
Après le SARS-CoV-1 et le MERS-CoV, en décembre 2019 émerge la COVID-19. Tous les regards se tournent désormais vers Wuhan, où on relève d'emblée des anomalies épidémiologiques.
Le premier signal, c'est l'arrivée dans les hôpitaux de la ville de Wuhan de personnes qui présentent une pneumopathie, une infection pulmonaire sévère, aiguë, dont on ne comprend pas bien la cause. Mais comme ça se passe en Chine et qu'en Chine, ils ont eu la première épidémie de SARS, ils ont quand même l'attention attirée assez rapidement sur ces malades.
Deuxième épisode, une obscure émergence à Wuhan.
Un mystérieux virus provoquant une pneumonie a fait 2 morts en Chine, selon les autorités, mais plus de 1700 personnes seraient touchées, selon des chercheurs.
Il est encore tôt, mais il y a des enquêtes pour savoir comment les patients ont été infectés. On ne serait pas surpris qu'il y ait une transmission d'homme à homme.
Je crois que le premier cas est du 9 décembre, et il va y avoir comme ça quelques dizaines de cas au mois de décembre, mais ça suffit pour alerter, surtout que les formes sont vraiment impressionnantes. Les services municipaux vont donner l'alerte, et nous, on ne l'apprendra qu'à la fin du mois de décembre par un site d'alerte médicale qui s'appelle ProMed, et aussi par des tweets de différents scientifiques, en particulier des tweets envoyés par un professeur de parasitologie comme moi, mais qui travaille aux États-Unis, qui s'occupe d'une organisation qui s'appelle Echo Health Alliance. C'est une organisation non gouvernementale qui est plutôt tournée vers la recherche sur les risques pandémiques et qui collecte de l'argent auprès des bailleurs de fonds de recherche, le National Institute of Health, le DARPA, qui est le département de recherche de l'armée américaine, pour mener des recherches sur le risque biologique essentiellement. Donc cette personne-là s'appelle Peter Daszak et va communiquer tout de suite sur ses infections en disant qu'il est inquiet et en expliquant très très rapidement qu'il pense que c'est lié au passage de coronavirus chez des animaux vendus sur un des marchés de Wuhan, qu'on appelle le marché aux fruits de mer, mais qui vend des animaux vivants et pas que des mollusques et des crevettes.
Thread Twitter de Peter Daszak le 31 décembre 2019.
Nous avons montré qu'il provenait probablement des chauves-souris et qu'il existe une grande diversité de SARS-CoV chez les chauves-souris en Chine. Nous avons travaillé avec l'Institut de virologie de Wuhan pour concevoir des tests sérologiques et on a montré que les habitants de la Chine rurale sont exposés au coronavirus.
C'est comme ça que le message nous arrive finalement. Il se passe quelque chose en Chine. Pour les spécialistes des syndromes respiratoires sévères en Chine, on se dit tiens, peut-être une reprise du SARS, peut-être un nouveau coronavirus. Et ce sera connu qu'une dizaine de jours après, quand on aura la séquence précise, qui effectivement est la séquence d'un coronavirus. Pas identique, mais proche du SARS. L'hypothèse du marché est mise en avant immédiatement. On a, je crois, 45 cas en décembre, puis ça augmente surtout très très rapidement. Et l'étape suivante, c'est que pour cette maladie, avec quelques dizaines de cas notifiés en décembre, on arrive assez rapidement, vers le 22 janvier, à une submersion des hôpitaux de Wuhan. Il y a 1% de la population qui est atteinte par le virus la semaine autour du 20 et quelques janvier. Ça fait quand même, pour 11 millions d'habitants, ça fait 110 000. Comment on arrive de quelques dizaines à 110 000, ça devient problématique, surtout que les calculs faits par les épidémiologistes chinois montrent qu'en gros, il faut une semaine pour que le nombre de cas double. Alors si on revient en arrière pour arriver au premier cas, ben, il faut descendre de moitié à moitié, ça nous met jusqu'au mois de septembre. Ça ne veut pas dire que ça a commencé en septembre, mais ça montre en tout cas que les quelques dizaines de cas diagnostiqués à Wuhan au mois de décembre, et en particulier ce qu'on appelle un cluster de cas autour du marché de Wuhan, sont plus des artefacts liés aux méthodes d'épidémiologie utilisées au début que la démonstration que ça a commencé à Wuhan au marché au mois de décembre. Lorsque le marché a été fermé, au tout début du mois de janvier, pour raisons sanitaires, parce que là, il a commencé à y avoir une inquiétude, les équipes vont prélever un peu partout et ne trouvent rien sur les animaux. Par contre, vont trouver des choses sur les surfaces. Mais ce qu'ils trouvent sur les surfaces, c'est mélangé avec de l'ARN, donc c'est la molécule du virus, mais il y a aussi de l'ARN humain, mais pas l'ARN d'animal. Donc on n'a pas d'argument pour dire, tiens, à ce marché, ils vendaient des raccoon dogs, les chiens vivérins, et on a eu des prélèvements sur la cage d'un chien vivérin, c'était positif. Non, on n'a pas ça. Il y avait des gens qui y travaillaient, et certains étaient positifs, on le trouve dans les égouts, donc les eaux usées, etc., mais sans qu'on puisse l'attacher à un animal. Donc l'enquête auprès des animaux du marché fait chou blanc. Ce qui quand même nous amène à penser que c'est beaucoup... Enfin, deux points d'ailleurs, c'est plus ancien que ça. Le premier, c'est que quand on regarde les génomes des virus, il y a déjà une diversification. On a vu l'importance dans le cadre du sida à Léopoldville, cette diversification qui indique que ça fait un moment que le virus circule. Elle a déjà commencé au mois de décembre quand on a les premiers virus. La deuxième chose, c'est que un certain nombre d'études sont faites, en particulier en Europe, montrant que dès le mois de novembre, voire même dès le mois de septembre ou octobre, des personnes avaient une sérologie positive. C'est-à-dire que le virus circulait, non seulement en Chine, mais probablement ailleurs aussi, dès les mois d'octobre, novembre 2019. Ce qui fait que ce qui se passe précisément au marché de fruits de mer de Wuhan en décembre n'est pas forcément pertinent pour comprendre comment le virus a émergé. À côté de ces études qui étaient structurées, on aurait pu avoir d'autres informations plus précises, venant d'ailleurs de différents pays, puisqu'il y a eu au mois d'octobre 2019 à Wuhan les Jeux Olympiques militaires. Et qui dit Jeux Olympiques dit contrôle antidopage, qui dit contrôle antidopage dit prise de sang et échantillons conservés. Mais la Chine s'est fermement opposée à ce que ces échantillons soient analysés puisqu'ils n'ont pas été collectés pour ça. certaines délégations se plaignent d'avoir été atteintes d'un syndrome grippal, on aurait peut-être pu savoir si ce syndrome grippal était lié à un coronavirus ou pas. Là, on ne peut pas le savoir. Peter Daszak va expliquer dans une interview qu'il donne à la fin de l'année 2019, on ne sait pas encore qu'une pandémie va commencer, mais il explique ce risque de pandémie lié au coronavirus et il dit plutôt que d'attendre qu'elle arrive, il faut l'anticiper et mieux que l'anticiper, il faut déjà lutter contre avant qu'elle arrive et que les coronavirus sont une menace, une épée de Damoclès, une bombe à retardement pour l'homme. Et il explique qu'il fait un gros effort de recherche d'échantillons chez les chauves-souris pour regarder les virus qui circulent. Et il teste ces virus avec des techniques de laboratoire. Alors ces virus sont connus pour avoir un système qui s'appelle la protéine spike, tout le monde connaît maintenant, qui est une sorte de clé qui va permettre de rentrer dans les cellules humaines. La serrure d'ailleurs s'appelle ACE2. Spike fait la clé. Et donc, en fait, il explique qu'il teste déjà ses protéines Spike contre la serrure ACE2. Chose intéressante, ces recherches se font à Wuhan, avec les équipes de l'Institut de virologie de Wuhan, et en particulier une chercheuse qu'on appelle Batwoman, qui a pour nom Zheng Lixi. Après avoir envoyé ses tweets et après avoir finalement attiré l'attention sur ce marché aux fruits de mer, Peter Daszak est extrêmement actif. Il n'est pas le seul, mais un certain nombre de scientifiques et aussi leur contrepartie au sein de l'administration américaine, en particulier Anthony Fauci, le conseiller de Donald Trump sur la problématique de l'infection par le Covid. Et il joue un rôle très important dans le choix des thématiques et des équipes qui vont être financées. Donc, vont commencer à discuter et vont commencer à échanger. Et semble, d'après les échanges de mails qui ont pu être rendus publics depuis, il y a une loi aux États-Unis qui s'appelle Freedom Information Act. Cette loi permet de demander qu'un citoyen américain demande la communication des échanges, par exemple des lettres, des courriers entre différentes administrations américaines, parce que comme ils payent des impôts, ils veulent savoir ce qui est fait avec. Ces échanges montrent qu'il y a une inquiétude en particulier à propos de théories qui feraient penser que le virus n'est pas de cause naturelle. En tout cas, que son émergence à Wuhan est peut-être liée à un laboratoire, en particulier l'Institut de virologie de Wuhan. Et on va voir, par exemple, un email de Peter Daszak à quelques-uns de ses collègues. Parmi ses collègues, on va retrouver Rita Colwell, spécialiste du choléra. Et là, Peter Daszak lui demande, et demande à d'autres, de se joindre à une sorte de lettre de prise de position qu'il veut la plus solennelle possible. Et ce papier va apparaître dans le Lancet. Le Lancet, c'est une des plus prestigieuses revues médicales. Et donc, faire autorité.
Extrait de la lettre parue dans la revue scientifique Le Lancet, 18 février 2020.
Nous nous unissons pour condamner fermement les théories du complot suggérant que le Covid-19 n'a pas d'origine naturelle. Nous ne déclarons aucun intérêt concurrent.
C'est pas le seul papier, il y a plusieurs articles qui sont faits, mais finalement tous dans la même veine pour dire que ça ne viendrait à l'idée de personne chez les vrais scientifiques d'imaginer que ce virus puisse être un virus échappé d'un laboratoire, que ce soit d'ailleurs un virus naturel ou un virus modifié. C'est important cette histoire de virus naturel parce que un certain nombre de scientifiques, et pas des moindres, se sont quand même inquiétés en regardant la séquence du virus de trouver quelque chose qui n'est habituellement pas présent dans ce groupe où se trouvent les SARS-CoV. Ces SARS-CoV ne possèdent pas un petit bout de génome qui est près du génome de la protéine spike qui s'appelle un site furine ou un site de clivage par la furine. Alors la furine, c'est une enzyme humaine ou d'autres animaux aussi qui va couper le virus, donc exposer encore mieux la protéine spike, ce qui lui permet de mieux rentrer encore dans la serrure ACE2. Ça n'existe pas dans le SARS-CoV, le premier. Ça n'existe pas dans les virus apparentés. C'est un des éléments qui facilite le franchissement de la barrière d'espèce, en quelque sorte. Ça a inquiété un certain nombre de virologues tout à fait sérieux. On a notre collègue Étienne de Crolly, par exemple, en France, et toute son équipe qui se sont dit « Tiens, c'est bizarre, il faudrait quand même qu'on ait une explication à ce propos. » Et là, l'article du Lancet dit non. Argument d'autorité, et ça marche. C'est ça marche, même à titre personnel, bon, bah, je vais pas trop chercher, puisque ça semble établi, ce virus, c'est un virus naturel. Et on va le trouver, c'est sûr, chez un animal, c'est juste une question de semaines ou de mois pour le trouver.
Deux ans plus tard, pourtant, toujours aucune certitude sur cette transmission animale. Même après la mission d'enquête de l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, en janvier 2021. Une mission internationale contestée à plusieurs égards. Les hypothèses investiguées, le casting d'experts, la surveillance de la Chine.
L'OMS fait déjà des premiers voyages, mais finalement, manque de curiosité, en tout cas, va surtout féliciter la Chine pour avoir bien pris en charge cette pandémie.
Troisième épisode, la mission controversée de l'Organisation mondiale de la santé.
Dans les premiers mois et en toute l'année 2020, ne s'intéresse pas très très fort à l'origine de la Covid. Mais à l'Assemblée générale de l'OMS, en mai 2020, quand même, il y a certains pays qui disent « mais quand même, on aimerait bien savoir ». Et l'idée est de constituer un groupe de recherche qui va faire cette enquête. Ça prend du temps de constituer le groupe et ça va finalement amener à une mission, mais en janvier-février 2021.
Les 10 enquêteurs de l'OMS ont enfin pu atterrir à Wuhan. Leur mission, et ils le précisent eux-mêmes, ça n'est pas de désigner un coupable, mais de comprendre l'origine de la pandémie.
Sachant que le sujet est particulièrement sensible ici en Chine, ils seront encadrés systématiquement par des officiels ou par des scientifiques chinois. Trois questions, où, quand et comment le virus est-il passé de l'animal à l'homme ?
Donc pour faire cette mission, l'OMS va d'abord négocier avec les Chinois et il est décidé de confier la mission à un ensemble de 34 scientifiques. Là, on a quand même des effectifs importants. 17 d'entre eux sont des Chinois désignés par le gouvernement chinois. Eux seuls auront accès aux données de base. Ils vont récolter les données, chercher les observations des patients, données épidémiologiques, données génomiques, etc. Et ils les présenteront à leur contrepartie mondiale, OMS, donc 17 autres personnes, qui vont avec eux les analyser et ensuite essayer d'aboutir à une conclusion. L'objectif étant de savoir quelle est l'origine de la Covid. Pour le côté OMS, les Chinois quand même regardent un peu, les pays proposent, l'OMS propose, d'ailleurs plusieurs candidats américains sont proposés, sont refusés, et ces différents scientifiques ont des compétences en épidémiologie moléculaire, c'est de regarder ces génomes et de regarder comment ils s'organisent, ce qu'on peut en déduire d'un point de vue scientifique, et des compétences dans le domaine de l'animal et l'environnement, c'est-à-dire de recherche de causes animales ou environnementales aux maladies, et donc là, bien sûr, sur le coronavirus. Ce groupe-là, d'ailleurs, sera dirigé par Peter Daszak. La mission met du temps à démarrer. Ils arrivent en Chine, ils commencent par 15 jours entre eux, évidemment, mais ils ne peuvent pas voir de partenaires chinois. Et puis ensuite, ils ont 2 semaines à passer sur le terrain. Mais c'est toujours des discussions, c'est pas eux-mêmes qui vont examiner les malades ou les dossiers des malades en particulier. Ils ne vont pas dans les laboratoires, d'ailleurs il n'y a pas de de personnes spécialisées dans la sécurité des laboratoires, l'hypothèse d'une fuite des laboratoires est écartée d'emblée parce que le gouvernement chinois dit « c'est insultant, en quelque sorte, d'aller regarder ça, pour eux, c'est pas le sujet, on va chercher ailleurs, mais ça c'est pas important ». Pourtant, l'équipe, à la fin, va classer 4 hypothèses. La première hypothèse, c'est le passage direct de la chauve-souris à l'homme. La deuxième, c'est le passage de la chauve-souris à un animal. Ça aurait pu être le pangolin, mais c'est pas lui, mais un animal X à nouveau, et passage ensuite à l'homme. Dans cette hypothèse-là, on imagine bien que le virus passe longtemps chez l'animal X puisqu'il doit s'adapter à un nouvel hôte et doit se rapprocher dans son mode de vie de ce qu'il va connaître chez l'homme après. Troisième hypothèse, qui est que c'est par l'alimentation, par des produits éventuellement importés, que le virus est arrivé en Chine. Ça ne change pas grand-chose sur les hypothèses de départ, puisque ces produits importés, on n'importe pas du virus, mais on peut importer de la viande, mais ça veut dire que ce serait passé par un animal et que ensuite cet animal aurait contaminé quelqu'un. Et la quatrième hypothèse, même si elle n'est pas, fait pas l'objet d'une enquête, elle est citée, c'est une fuite de laboratoire. Ce qui est intéressant, ce document est accessible pour tout le monde, enfin accessible. Il est particulièrement difficile à lire, etc. Mais quand on arrive au bout, aussi, il y a une chose à regarder, c'est la fin, parce que la fin, c'est l'argumentaire. Les 4 hypothèses sont expliquées, et ensuite les arguments pour et les arguments contre. On peut déjà dire que l'hypothèse du passage direct à l'homme pose des problèmes aux scientifiques à cause du fait que la différence entre les génomes qu'on connaît chez les chauves-souris, quel que soit, il y a plusieurs virus, enfin, il y a beaucoup de virus, mais à chaque fois quand même ils sont très différents de ceux qu'on va trouver à Wuhan ensuite. Et ce fossé, enfin, c'est un peu un océan quand même. Ça représente, selon les scientifiques qui font l'enquête, plusieurs dizaines d'années de mutations. En fait, c'est tout le temps qu'il faudrait pour un virus à s'adapter. On a vu ça avec le sida, après tout. Pendant plusieurs années, le virus a évolué pour s'adapter à l'homme, mais simplement, il a été dans des bonnes conditions pour s'adapter. On rappelle la prostitution et les usages extrêmement importants des seringues à titre thérapeutique dans la lutte contre la syphilis, contre la maladie du sommeil en Afrique au moment de l'Afrique coloniale. Là, justement, on n'a pas ce chaînon manquant, mais il représente là encore plusieurs décennies et on ne sait pas. Donc, c'est quand même un argument très fort contre le passage direct. Alors, on peut toujours dire qu'on n'a pas trouvé tous les virus, mais on cherche et pour l'instant, on en est là. Et pour ce qui est du laboratoire, ils disent simplement que les laboratoires sont très bien. Ils ne les ont pas visités, ils en ont vu un, mais ils n'ont pas fait d'audit sur l'ensemble des laboratoires. Il y a des laboratoires de tous les niveaux, y compris à l'Institut de virologie de Wuhan, des laboratoires de très haut niveau de sécurité, niveau maximum, P4, mais aussi des laboratoires de niveau de sécurité beaucoup moins important. Mais c'est pas le sujet, puisque les Chinois disent que c'est pas important.
Extrait du rapport de l'OMS sur la mission d'études concernant l'origine du Covid en Chine, du 14 janvier au 10 février 2021.
Hypothèse d'une introduction par un accident de laboratoire. Évaluation de la probabilité.
Nos recherches suggèrent que la thèse du laboratoire est extrêmement improbable pour expliquer l'émergence du virus dans la population humaine.
Hypothèse d'une transmission directe de l'animal. Argument en faveur. La majorité des maladies émergentes trouvent leur origine dans les réservoirs d'animaux. Et il y a des preuves tangibles qui révèlent que la plupart des coronavirus humains actuels proviennent d'animaux.
L'hypothèse qui va prendre le dessus, c'est donc le passage à l'animal. L'argumentation, c'est les arguments pour, et ensuite on verra les arguments contre, les deux sont exposés. Dans les arguments pour, on dit d'abord, il manque un chaînon, c'est cette histoire de distance génétique entre les virus de chauve-souris et le virus trouvé chez l'homme. Donc il faut absolument qu'il y ait quelque chose. ça je l'admets, mais c'est surtout un argument contre le passage direct. Et puis sinon, c'est dire, ben, on a dans d'autres cas des choses similaires. Il cite Ebola, il cite différents virus. On aurait pu citer la grippe ou on aurait pu citer HIV, puisque les virus de singes sont passés au chimpanzé et du chimpanzé à l'homme. Donc c'est tout à fait possible. Ils expliquent aussi que quand l'homme a été atteint, quand il y a eu la pandémie, on a vu le passage à l'animal. Ça passe de l'homme à l'animal, de l'animal à l'homme. Mais l'important, c'est que ce sont des hypothèses. Il y a vraiment, c'est à chaque fois, ça pourrait être. Et dans les arguments contre, eh bien, on a une déclinaison de, eh bien, on a cherché chez les animaux, on n'a rien trouvé. 80 000 prélèvements ont été faits chez les animaux, on n'a rien trouvé. Lorsque l'épidémie était maîtrisée complètement en Chine, chaque émergence, puisqu'on est à la recherche d'un réservoir qui émettrait comme ça de temps en temps une nouvelle chaîne de transmission, chaque démarrage, grâce aux données génétiques et aux données épidémiologiques, est clairement rattaché à l'actuelle pandémie et pas à un réservoir en amont de l'actuelle pandémie. On a cherché chez le bétail, on ne trouve rien. Et finalement, à chaque fois, ils expliquent, il n'y a pas de preuve qu'on trouve des souches chez l'homme qui proviennent de l'animal, etc., etc. Et à la fin, on tourne la page et on arrive à la conclusion. Et la conclusion, manifestement, c'est le fruit d'une négociation, c'est plus politique que scientifique. La conclusion, c'est l'hypothèse qui est probable à très probable, c'est que c'est passé par un animal. Donc ils n'ont rien trouvé. Dans tous les autres cas, on l'a vu pour les autres virus, on met bien en évidence d'où viennent les morceaux de virus, le virus complet, etc. Là, on l'a pas, mais ils disent quand même que c'est très probable. Et les autres, on pourrait envisager éventuellement le passage à l'homme, bon, mais il n'y a pas d'évidence non plus. Et l'hypothèse du laboratoire est juste très improbable, vraiment, ça, c'est même pas la peine d'y penser. C'est drôle parce que cette hypothèse n'a pas été investiguée. Et on va voir qu'elle aurait dû.
Coup de tonnerre. Cet après-midi, le patron de cette même Organisation mondiale de la santé contredit ses chercheurs et demande à la Chine de nouvelles investigations.
Va-t-on connaître un jour l'origine du Covid-19 ? Ce soir, le patron de l'OMS demande une nouvelle enquête sur l'hypothèse d'une fuite du virus d'un laboratoire en Chine. Les experts mandatés à Wuhan pendant 4 semaines ont eu des difficultés à accéder à certaines données.
Quand on voit ce que fait l'OMS à leur retour, on va sur le site de l'OMS et l'OMS dit il est important de n'exclure aucune hypothèse. Tiens, ben, c'est pas ce qu'ils ont dit. Et pour être plus clair, quelques mois après, l'OMS a demandé un audit des laboratoires. La Chine a dit, mais non, ça y est, c'est fait. L'enquête a été faite, c'est plus la peine de revenir là-dessus. Donc, effectivement, on peut se poser des questions. La mission était avec des personnes qui étaient déjà acquises, en particulier Peter Nazak, il est fermement défenseur de l'hypothèse animale. Donc le groupe qu'il va diriger essaie quand même de l'amener vers cette hypothèse-là. L'enquête de l'OMS se termine, on voit que l'OMS ne convainc pas trop, ne se convainc même pas trop. Et puis là, on commence à se poser de plus en plus de questions sur les travaux qui sont menés conjointement par des équipes américaines et chinoises. Et l'équipe chinoise étant à l'Institut de virologie de Wuhan, les équipes américaines étant coordonnées par Peter Daszak. Il avait été nommé par le Lancet à la tête d'une commission pour chercher l'origine de la Covid. Et au fil du temps, les informations sortent sur le fait que Peter Daszak est probablement pas le plus à même de le faire. En tout cas, on pourrait lui reprocher des conflits d'intérêts. Or, dans la première lettre au Lancet, aucun de ces conflits d'intérêts n'était nommé. Dès que quelqu'un publie, même une lettre, il doit expliquer d'où il parle. Et en particulier, si dans ses activités privées ou professionnelles, il a des liens ou des conflits d'intérêts qui pourraient modifier son avis. Alors quand je parle de conflit d'intérêts pour Peter Daszak, c'est qu'il mène des recherches avec l'Institut de virologie de Wuhan sur le coronavirus, avec des virus chimériques. Un virus chimérique, c'est un virus qui est formé de morceaux d'origine différente. On parle de squelette de virus de chauve-souris, en quelque sorte, auquel on ajoute de quoi faire la protéine qui va permettre au virus de rentrer dans la cellule de son hôte, qui peut être une souris modifiée ou qui peut être l'homme. Là, c'est une souris modifiée. Donc, ces virus sont le fruit d'un mécano de biologie moléculaire. En fait, c'est destiné à voir quelles sont les caractéristiques particulières de ces protéines spike qui lui permettent de bien rentrer dans les cellules. Donc on va s'apercevoir qu'il n'avait rien dit sur l'article du Lancet. Et donc le Lancet va publier un addendum, d'abord spécifiquement pour lui, puis on va s'apercevoir que d'autres, parmi les 27 aussi, ont des liens d'intérêt ou des conflits d'intérêt avec la Chine. Et c'est vrai que c'est presque aussi long l'addendum que la lettre qui avait été publiée initialement, parce que là, il est obligé d'expliquer tout ce qu'il fait avec les collègues chinois. Et là, on comprend qu'en fait, il organise un article en défense des Chinois, mais c'est en défense de ses propres collègues et en défense de son propre travail, et il ne le disait pas.
L'idée que le virus se soit échappé d'un laboratoire est de la pure bêtise.
Peter Daszak.
C'est vraiment une politisation inutile des origines d'une pandémie.
Et la commission d'investigation du Lancet, elle aussi, va même s'autodissoudre parce qu'il n'est pas le seul à avoir ces conflits d'intérêts. Donc à la fois dans la commission et parmi les auteurs de cette lettre au Lancet, on va trouver d'autres personnes, par exemple, qui travaillent à EcoHealth Alliance ou qui travaillent pour le Wellcome Trust, qui a financé un certain nombre de recherches, etc., etc. Et là, on s'aperçoit que finalement, notre arbitre, Peter Daszak, est un peu l'arbitre en étant dans toutes les commissions pour guider la recherche, ou l'enquêteur en quelque sorte, est en fait très impliqué dans l'histoire. Il en sait beaucoup plus que ce qu'il veut bien dire. On n'a aucune information, par exemple dans le rapport de l'OMS, sur les activités de recherche de l'Institut de virologie de Wuhan. Pourtant, ce n'était pas compliqué. Il suffisait d'interroger les membres de la commission. On aurait su ce qui s'y passait. Il n'y a absolument aucune information.
Le rapport de l'OMS s'est abstenu de toute conclusion susceptible d'indisposer la Chine. À ce jour, aucune preuve n'invalide ni ne confirme les hypothèses de la transmission par l'animal ou de la fuite de laboratoire. Mais nous savons que des expériences de gain de fonction, donc qui modifient génétiquement des virus, ont fabriqué des coronavirus de chauve-souris plus transmissibles et plus virulents. Dans quelle mesure le SARS-CoV-2 pourrait être une chimère créée artificiellement? L'épidémiologiste Renaud Piarou vous guide de fait en fait.
Quatrième épisode, des expérimentations à haut risque.
2021 est aussi l'année où on va avoir un certain nombre de documents qui vont devenir accessibles, et en particulier un rapport de recherche mené avec un financement du National Institute of Health aux États-Unis, coordonné par Peter Daszak, et dont le but est justement de comprendre comment les coronavirus, en particulier de chauves-souris, sont capables de franchir la barrière d'espèce. Qu'est-ce qu'il leur faut pour franchir cette barrière d'espèce? Cette recherche, normalement, est censée se terminer au début de l'année 2019. Avec un peu de retard, elle se termine en mai 2019. Mais le rapport, il devrait arriver tout de suite, n'arrive pas avant le printemps 2021, donc 2 ans après. Et là, on découvre qu'ils ont effectivement travaillé sur ces virus chimériques et que l'un d'eux a des propriétés particulièrement évocatrices d'un risque de passage à l'homme, puisque sur des souris dont on a modifié les cellules pour qu'elles aient le même récepteur que les cellules humaines, on a une infection beaucoup plus grave. Les souris tombent malades au bout de 5-6 jours et les 3/4 des souris meurent d'une infection par coronavirus. Donc, oui, là, à ce moment-là, on a une recherche qui indique que c'est possible de créer des lésions sur le modèle qui est le plus utilisé pour tester la capacité à infecter l'homme, qui est ce modèle de souris qu'on appelle transgénique, adapté pour avoir le même récepteur à CE2 que l'homme. Si on avait eu cette information en 2019 ou au tout début de 2020, on aurait pu se dire que ça pouvait être inquiétant, d'autant plus que ces recherches sont faites évidemment au laboratoire de virologie de Wuhan. Donc on a des recherches qui sont faites qui montrent que dès le début de 2019, ils avaient un modèle qui fonctionnait très bien. Ils avaient pris l'habitude d'utiliser différents virus. Ils avaient maîtrisé la fabrication de virus chimériques qui avant se faisait aux États-Unis dans des conditions de sécurité beaucoup plus importantes. Et là, on sait par ailleurs que ces travaux ne sont pas effectués dans le plus haut niveau de sécurité, mais dans un niveau de sécurité tout à fait contestable parce que le virus n'est pas connu comme un virus de pandémie. C'est un virus de chauve-souris. Mais on prend un virus de chauve-souris, on lui donne les moyens d'infecter des souris qui sont transformées pour ressembler à l'homme. C'est un peu penser que ce virus peut devenir un virus de pandémie. En tout cas, les conditions de sécurité ne sont pas du tout les mêmes.
Morsure d'un scientifique par un animal infecté ou échantillon mal manipulé, le président américain Joe Biden relance l'enquête sur la responsabilité de la Chine. Une information majeure motive la commande de ce rapport. Trois scientifiques de l'Institut de virologie de Wuhan, qui manipulent des coronavirus, ont été hospitalisés en novembre 2019 avec des symptômes semblables à ceux du Covid. L'Union européenne et les États-Unis pressent l'Organisation mondiale de la santé à lancer de nouvelles investigations. Depuis le début de la pandémie, l'OMS est accusée de complaisance envers la Chine.
Il y a eu, dans l'histoire en particulier de la recherche sur le SARS, des fuites de laboratoires qui ont été authentifiées. Quatre en particulier en Chine, dans un laboratoire à Pékin, quatre fois. Ce n'est certainement pas des choses qui sont signalées à tous les coups, parce qu'il n'y a pas de boîte noire, il n'y a pas un truc qui permet de le savoir. Et puis, je rappelle quand même cette histoire qui concerne la grippe de 1977, dont on a la certitude que le virus est resté congelé quelque part pendant une vingtaine d'années. Fuite de laboratoire, campagne de vaccination foireuse, on ne saura pas. Et cette épidémie de grippe, qu'on a appelée aussi grippe russe, c'est pas confondre avec celle de 1889, là c'est en 1977, a fait quand même 700 000 morts. On l'appelle grippe russe, mais ça a démarré en Chine. Donc c'est des choses qui arrivent. Sur les accidents de laboratoire, par exemple à Pékin, oui, ça passe par l'humain. Donc on peut imaginer qu'une personne en manipulant, si on est dans des niveaux de sécurité insuffisants, ça peut être c'est un étudiant, hein, c'est pas forcément le chercheur senior qui fait ce genre de manipulation, peut très bien se contaminer. Le virus donnant des formes, finalement beaucoup de formes peu graves, en particulier chez les personnes jeunes en bonne santé, peut-être même ne pas s'en être aperçu. Donc c'est compliqué à mettre en évidence. Mais on peut tout à fait imaginer la possibilité d'une fuite de laboratoire. Daszak, au moment où il termine ses recherches avec le financement à NIH, cherche à nouveau des financements et va soumettre fin 2018 à un projet qui s'appelle DEFUSE. DEFUSE, ça veut dire effectivement désamorcer, parce qu'il considère que les virus de chauve-souris sont une bombe à retardement, qu'il faut la désamorcer. L'idée, c'est d'avoir une connaissance assez exhaustive de tous les virus qui circulent chez les chauves-souris et de ceux qui pourraient passer chez l'homme. Il y a l'idée de tester à grande échelle le passage du virus, la capacité à rentrer dans des cellules, en particulier sur des modèles de souris transformés, donc génétiquement modifiés pour pouvoir ressembler aux cellules de l'homme, et de le faire et de regarder selon les séquences de la protéine Spike, quelles sont celles qui sont le plus propices au passage, d'utiliser même de l'intelligence artificielle pour imaginer tous les scénarios possibles de transmission à la souris selon qu'on fait telle ou telle mutation. L'idée, c'est vraiment d'avoir une espèce de bottin de toutes les mutations qui pourraient rapprocher d'une transmission vers l'homme ou pas. Ensuite, d'aller chercher dans les grottes où sont les chauves-souris, de gratter un peu tout ça pour trouver les petites séquences d'ARN et regarder ce qui circule. L'idée, ce serait de faire une vaccination avec une espèce d'aérosol dans lequel les chauves-souris passeraient le soir quand elles partent chasser, de manière à les vacciner. Alors c'est révolutionnaire, mais on n'est pas sûr que ça marche. Et l'idée d'une vaccination à très large spectre, c'est une idée à fouiller, mais pour l'instant, on le voit bien, ne serait-ce qu'avec les coronavirus, des variants du même virus, des variants qui ont simplement quelques mois d'âge en termes de divergence de génome, sont déjà résistants, enfin moins sensibles à la vaccination, mais il a des idées et il dit qu'on va pouvoir faire ça. Alors il propose ça au DARPA, au département de la défense, à partir recherche du département de la défense américain, et le DARPA dit... Non, on ne peut pas vous financer. Vous n'avez pas assez insisté sur la manière dont vous allez gérer les risques pour le personnel et le risque de finalement lié à la manipulation de virus potentiellement pandémiques. Mais pour Peter Daszak, bien qu'il cherche pourquoi un virus peut devenir pandémique, il dit mais on part de virus qui ne sont pas pandémiques, donc ça ne rentre pas dans ce champ-là. C'est un peu jouer avec les mots. Mais pendant longtemps, il a quand même l'écoute des décideurs et ses recherches peuvent se faire parce qu'il arrive à convaincre que ces virus à lui ne sont pas dangereux. Et Peter Daszak avait des financements au moment du début de la pandémie, puisque celui du NIH était terminé, celui demandé au DARPA n'avait pas été accepté. Pourtant, Trump a fait arrêter les financements et Peter Daszak s'est plaint que ces financements aient été interrompus et Anthony Fauci a trouvé un moyen de le refinancer quelques mois après. Sur quel programme, etc., ça c'est les épisodes suivants peut-être qui nous donneront la réponse. Moi je n'ai pas vu ce qui est fait. Il y a Peter Daszak et puis il y a Zenglishi. Si ça se trouve, Zenglishi a, elle, eu des financements par ailleurs. Après, elle a pu continuer les recherches. Tout ça sont des suppositions, puisqu'ils n'ont pas parlé, en particulier Zenglishi n'a pas expliqué ce qui se faisait depuis. Il n'y a, je le répète, pas eu d'investigation du laboratoire. Et ça, c'est le problème. Dans le projet Defuse, il y a un élément intéressant, qui est que c'est le seul projet où on voit qu'il propose d'ajouter à son système de virus chimérique un site de reconnaissance de la furine. On n'a pas de preuve qu'il l'ait fait ou pas, que Zenglishi l'ait fait ultérieurement, mais ils annoncent leur intention de le faire en 2018. C'est vrai que retrouver un virus comme ça un an après avec ce site de reconnaissance de la furine est intéressant. Ça ne veut pas dire qu'ils avaient l'intention de le faire. Il faisait des recherches dans ce sens-là, mais effectivement, on n'a pas de preuves que cette recherche ait été faite. Ce qu'on sait quand même, c'est que le laboratoire manipulait beaucoup de virus, et tous ces virus n'étaient pas forcément connus du public et publiés, puisque quand on fait un travail, on ne publie que le travail fini, pas les travaux en cours. Donc, pour sûr, ces manips avaient lieu, elles représentaient quelque chose considéré comme dangereux et on se demande si quelque chose de similaire n'a pas été fait et ne serait pas à l'origine de cette pandémie. Mais comme il n'y a pas eu d'investigation, il n'y a pas de preuves, le problème c'est que ça n'a pas été cherché et qu'il faut le chercher. On sait maintenant qu'il est extrêmement dangereux de prendre un virus, même inconnu au bataillon, de lui ajouter un site furine ou de modifier sa protéine spike. On sait aussi que des fuites de laboratoire existent. Je ne sais pas si la pandémie actuelle est liée à ça, mais ce que nous apprend la pandémie actuelle, c'est que ça serait un très bon point de départ de pandémie. Ce qu'on sait aussi, c'est que face à un problème comme ça, dès lors qu'il y a une inquiétude sur le travail des scientifiques, il y aura toujours des scientifiques qui iront d'un côté dire « mais non, il n'y a rien de dangereux, d'ailleurs, ils vont trouver d'autres explications, des explications naturelles, et puis il y aura quand même quelques scientifiques qui vont s'inquiéter. » Ces scientifiques qui défendent finalement leurs recherches et ont tous les arguments pour ça, disposent en plus d'un argument supplémentaire, c'est qu'ils ont une belle histoire. Quand on prend Rita Colwell avec son réchauffement climatique, les bactéries qui sont dans l'environnement, qui émergent au moment de saisons exceptionnellement chaudes, ça relie un problème planétaire, l'écologie, avec en plus quelque chose qui est un peu un fléau de l'humanité, qui est le choléra. On a la même chose avec Peter Daszak, sa bombe à retardement, derrière ces virus que les chauves-souris hébergent, le fait que ce soit lié à des attaques que l'on fait à la nature, le commerce d'animaux sauvages, plein de choses qu'on trouve dangereuses. Là encore, on a une très très belle histoire, et en plus quelqu'un qui dit « moi je ne vais pas faire simplement détecter vite les pandémies, les anticiper, dire que vous allez en avoir une. Non, je vais faire beaucoup mieux que ça. Je vais vous protéger, je vais agir en amont. » Ça ne peut que plaire. Est-ce que c'est crédible ou pas? C'est compliqué. Moi, j'ai encore du mal à penser qu'on peut agir à ce niveau-là en amont. Ce que je pense, c'est qu'en allant trop loin là-dedans, on peut être amené à prendre des risques.
Échange entre le docteur Anthony Fauci et le sénateur républicain Rand Paul, 20 juillet 2021. Docteur Anthony Fauci, sachant que c'est un crime de mentir au Congrès, souhaitez-vous revenir sur votre déclaration du 11 mai où vous affirmiez que le National Institutes of Health n'avait jamais financé la recherche sur le gain de fonction à Wuhan?
Senator Paul, I have never lied before the Congress.
Sénateur Paul, je n'ai jamais menti devant le Congrès et je ne me rétracte pas. Ce document auquel vous faites référence a été jugé par du personnel qualifié en amont et en aval comme n'étant pas des études de gain de fonction. Ce qui était...
Vous prenez un virus...
Laissez-moi finir.
Vous prenez un virus animal et vous augmentez sa transmissibilité à l'homme. Et vous dites que ce n'est pas du gain de fonction?
C'est exact. Et sénateur Paul, vous ne savez pas de quoi vous parlez. Très franchement, je tiens à le dire officiellement, vous ne savez pas de quoi vous parlez.
Vous tentez d'esquiver cela parce que vous essayez de minimiser la responsabilité pour les 4 millions de personnes décédées dans le monde à cause de la pandémie.
Et vous insinuez que ce que nous avons fait a provoqué la mort d'individus, je n'aime pas du tout ça. Et si quelqu'un ment ici, sénateur, c'est vous.
Et face à cette controverse scientifique, c'est très compliqué pour le politique de juger. Mais le problème, c'est que là, on est en train de parler de risques qui impliquent des millions de morts potentielles. Même si on n'est pas certain qu'il va y avoir une fuite. Simplement le fait de penser que c'est risqué doit amener à proscrire ce genre de manipulation. L'homme a appris au fil des années à modifier le vivant, à modifier lui-même, et il y a des garde-fous. Il peut modifier les bactéries, il peut modifier les virus, et là il n'y a pas vraiment de garde-fous. Il faut mettre en place ces garde-fous le plus rapidement possible.
Juin 2022, l'enquête officielle est toujours au point mort. Mais des scientifiques indépendants continuent à enquêter sur la véritable origine de la Covid-19. Mécanique des épidémies, 4e saison, la Covid, avec l'épidémiologiste Renaud Piarou. Réalisation Éric Lancien, prise de son Dophar Guéride, conseillère au programme Camille Renard, avec la collaboration de Pascaline Bonnet. Archivina, Delphine Desbiens. À suivre. Mécanique des épidémies, 5e saison, Palu, Zika, Chikungunya, les pandémies véhiculées par les moustiques.